Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie. Je répète. Le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète. Le groove perdu va commencer.
Le dictionnaire ? Demanda Winston en élevant la voix pour dominer le bruit. Lentement, répondit Syme. J'en suis aux adjectifs. C'est fascinant. Le visage de Syme s'était immédiatement éclairé au seul mot de dictionnaire. Il poussa de côté le récipient qui avait contenu le ragoût, prit d'une main délicate son quignon de pain, de l'autre son fromage, et se pencha au-dessus de la table pour se faire entendre sans crier. La 11e édition est l'édition définitive, dit-il. Nous donnons aux neuf langues sa forme finale, celle qu'il aura quand personne ne parlera plus une autre langue. Quand nous aurons terminé, les gens comme vous devront le réapprendre entièrement. Vous croyez, n'est-ce pas, que notre travail principal est d'inventer des mots nouveaux ? Pas du tout. Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. La 11e édition ne renfermera pas un seul mot qui puisse vieillir avant l'année 2050.
Moi, je vois plusieurs catégories de langues de bois. Je vois des catégories totalement inoffensives qui pourraient rentrer dans la langue de bois, qui est notamment, en gros, qu'est-ce que c'est la langue de bois ? Peut-être on peut commencer par là. Une définition de la langue de bois. La langue de bois, c'est un vocabulaire particulier, c'est un vocabulaire qui est professionnel, qui n'est utilisé que dans un cadre professionnel, entre professionnels. Normalement, c'est ça. Et qui s'étend à des sphères qui ne devraient pas s'étendre à ces sphères-là. Alors ça, c'est un peu abscon comme définition, mais je vais essayer de préciser. Une des catégories de la langue de bois, c'est ce qu'on appelle le langage spécialisé, langage geek, le langage professionnel, technique. Donc, quand vous discutez avec un informaticien, il va vous parler un langage que le commun des mortels ne comprend pas. Ça, c'est pas un problème, tant que les informaticiens parlent entre eux. Ils ont besoin d'inventer des mots nouveaux pour parler de choses nouvelles. Par contre, quand un travailleur social s'adresse à ce qu'on appelle aujourd'hui un bénéficiaire, un mot de la langue de bois aussi, avec un jargon, qui est un jargon professionnel administratif, il s'exerce alors un rapport de domination très clair sur cette personne-là qui n'est pas armée en fait pour comprendre ce langage-là et qui du coup va ressentir très clairement au minimum un sentiment d'infériorité et d'incompréhension par rapport à ça, ce qui permet de maintenir un rapport de domination uniquement par le langage. Il y a ce qu'on appelle la langue de coton, qui est la langue de bois la plus connue, qui est celle à laquelle on pense quand on dit langue de bois, qui est en fait la langue de bois médiatique, qui est en fait employer des mots pour noyer le poisson. En fait, employer un langage euphémisant, un langage qui adoucit un peu, pour grosso modo noyer le poisson, lisser le propos, moins heurter, et avoir un langage communicationnel. Et il y aurait une troisième qui est celle qui nous intéresse le plus, qui est celle très clairement la langue de bois du pouvoir, où là les mots sont choisis, étudiés, millimétrés, pour prendre la place d'autres mots. Et en fait, on change les mots, on en invente des nouveaux pour en anéantir d'autres, où on anéantit le concept qu'il y a derrière, on anéantit l'idée, on anéantit la portée de la pensée qui va avec. Et ceux-là, on y pense moins. Ceux-là, ils sont plus insidieux. Ceux-là, ils sont plus puissants. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde emploie le mot, même la CFDT emploie le terme « charge sociale ». On dit « il faut baisser les charges sociales ». On entend ça partout. C'est un scandale qu'un syndicaliste emploie le mot charge sociale. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié ce que ça voulait dire charge sociale. C'est normal. Avant, on disait pas charge sociale, on disait cotisation. On disait cotisation, et derrière cotisation, il y avait l'idée de salaire. En fait, une cotisation, c'est un salaire. Quand on demande à quelqu'un dans la rue si on faisait un micro-trottoir, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'en France, on baisse les salaires ? La personne aurait de grandes chances de nous répondre, ben non, quand même. Par contre, si on lui demandait, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on baisse les charges sociales ? La personne va nous répondre oui. Il y a de grandes probabilités pour que la personne nous réponde oui, parce que charge sociale, c'est un truc, c'est lourd, c'est pesant, c'est une charge. On l'a sur le dos, vous voyez. Pourtant, ces deux mots sont synonymes. Baisser les charges sociales, ça veut dire baisser les salaires. Donc quand on enlève le mot salaire, quand on enlève le mot cotisation, qu'on le remplace par charge, on ne pense plus la même chose. Ce truc-là a été pensé. Pareil, on ne dit plus ouvrier. Donc on ne pense plus l'ouvrier. On ne dit plus chef, on ne dit plus hiérarchie. Ces mots-là ont disparu. Ont disparu. Nous, on cite souvent les ouvrages de management et les travaux de Boltanski et Capello dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme, qui ont eux étudié justement le langage dans le capitalisme. Et qui ont étudié qu'il y a 20 ans, dans un ouvrage de management, hein, donc qui n'est pas le petit livre rouge de Mao, hein, mais dans un ouvrage de management, d'école de commerce, il y a 20-30 ans, le mot hiérarchie apparaissait le plus de fois dans le mot management. C'est normal, c'est au cœur de l'étude du management, l'organisation sociale de l'entreprise. Il y a de la hiérarchie, c'est comme ça que ça marche. 30 ans après, l'organisation sociale de l'entreprise n'a absolument pas changé. On est toujours sur des modèles hiérarchiques basés sur des modèles de management d'il y a 30-40 ans à peu près. Ça n'a pas bougé. Là, pour le coup, c'est de l'économie. En revanche, le mot hiérarchie a disparu des ouvrages de management, complètement. Donc on ne peut plus penser la hiérarchie. Ça pose un problème aux syndicalistes. On ne peut plus penser la hiérarchie, donc on ne peut plus se battre contre les hiérarchies, elles n'existent plus. On n'a plus de supérieur hiérarchique, on a des managers. fameux spin doctor, là, qui, eux, vont étudier chaque prise de parole. Donc, on connaît, par exemple, les communicants d'un conseil des ministres. On sait qu'à un conseil des ministres, on a des éléments de langage qui sont donnés, et chaque ministre qui va sortir d'un conseil des ministres va employer les mêmes mots. Bon, là, on voit bien, et du coup, ils nous inventent des choses comme la courbe inversée du chômage, ou la croissance négative, ou voilà, des mots assez hallucinants. À certains moments. Donc ceux-là sont pensés par des professionnels de la communication. Les pires, ceux dont je parlais, ceux qui ont programmé de faire disparaître le mot « ouvrier », ceux qui ont programmé de faire disparaître tout un ensemble de langages qui nous permettaient de penser le monde structurellement, sont les libéraux. Les libéraux, ça fait 2 siècles que ça dure, mais les libéraux sont devenus dominants dans notre société occidentale à partir de Milton Friedman, hein, des années 40, 50. Donc là, c'était très clairement ce qu'on appelle des think tanks, qui sont des officines privées, payées par des grands patrons, hein, pour le dire vite, payées par l'industrie, où ils vont réfléchir. Ils ont pris beaucoup de vitesse à partir de 68, en gros, la guerre de 68, où en gros l'idée c'était plus jamais ça. Plus jamais un mouvement social pareil, parce que 68, c'est pas 3 chevelus qui jettent un pavé à Paris, c'est à peu près tous les pays occidentaux qui subissent leur plus gros mouvement social après-guerre qu'ils ont jamais subi. C'est 10 millions de grévistes en France, c'est des acquis sociaux, c'est le patronage nous, hein, mai 68, hein. C'est pas une grève d'étudiants. Du coup, plus jamais ça, plus jamais ce que Marcuse appelait une critique efficace du capitalisme, Herbert Marcuse, qui était un des prophètes inspirateur de 68, qui disait plus aucune critique efficace du capitalisme dans les mots, justement. Et Herbert Marcuse avait prédit cette offensive sur le langage qui ferait qu'on ne pourrait plus avoir de critique efficace parce qu'on n'aurait plus les mots pour critiquer. C'est ce qui s'est passé. Donc je cite Milton Friedman parce que il a monté un think tank qui est assez connu, qui est la Société du Mont Pèlerin, qui est un très bon exemple, qui est une 20aine de personnes qui se réunissent plusieurs fois par an sur le Mont Pèlerin, c'est-à-dire en haut d'un téléphérique au-dessus de Lausanne, en Suisse, et qui réfléchissent et qui donnent des préconisations aux puissants de ce monde pour que tout le monde puisse un peu coordonner leurs efforts. Tout le monde, hein, c'est ce que j'appelle les dominants, hein, c'est ceux qui ont le pouvoir effectif dans notre monde, puissent en gros se coordonner pour mener des offensives politiques très claires de partout. Donc on va avoir à partir de ce moment-là, de façon coordonnée, la casse systématique des services publics, l'endettement des pays, le marché financier comme mode de financement de l'économie, alors qu'avant on se passait très bien des marchés financiers, on avait un truc qu'on appelait des banques, ou des banques centrales pour financer, etc., etc. Des politiques économiques tout le temps les mêmes, toutes les mêmes sur toute la planète, c'est réduire les coûts, baisser les services publics, réduire la dette et asphyxier tout le monde, et agir sur le langage pour qu'il n'y ait plus de critique effective de ce qu'on appelait dans le temps les masses laborieuses, donc que les ouvriers, en gros, n'aient plus le pouvoir de se révolter, pour le dire simplement. Et du coup, on a rééduqué, on a fait un lavage de cerveau, on a désappris ce que le mouvement ouvrier avait mis 2 siècles à nous apprendre, c'est-à-dire avoir la science de notre propre malheur.
So what we're really talking about here is the two aspects of the consciousness of words.
I don't understand the words you use. Please, wait a minute. I want to talk.
Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron il dit que non, il force les cadences à t'en faire crever, tu peux être viré mais te laisse pas faire, faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison, trouvera toujours le compte-service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire au débile que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeun entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer, avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris.
Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Mesdames et messieurs, quel est, selon vous, le mot number one du capitalisme contemporain tel que le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management de l'année 1999? Challenge. Équilibre. Équipe, pardon. Non, ceux qui savent ne le disent pas. On laisse chercher les autres. Alors ?
Collectif, actionnaire.
Décideur.
Manager.
Résultat.
Synergie.
Productivité.
Collaborateur.
Eh,
vous tournez autour, mais il est beaucoup plus fort que ça, il est magique.
Solidarité.
Ah ouais, vous tournez autour. Non, mais sauf que ceux-là, on les voit venir, si vous voulez, c'est comme partenariat. Quand la banque vous dit qu'elle est votre partenaire, vous voyez venir... Non, vous sentez le truc, quoi, vous voyez. Chez moi, il y a une affiche à Quimper, c'est l'armée premier partenaire des jeunes. Non, celui-là, on ne voit pas venir, c'est pour ça qu'il est magique. Mondialisation, non. Il est bien, hein. Mesdames et messieurs, je vous présente notre ennemi à tous. Attention, je vais faire des malheureux. Eh oui. Parce que autant on peut mobiliser un collectif de travailleurs contre une hiérarchie, autant aller faire chier des gars qui ont un projet, c'est vraiment pas sympa. Il se trouve que c'est le même projet que celui du patron, tant mieux, ça prouve qu'il y a du lien social dans l'entreprise. Mesdames et messieurs, cette espèce de saleté est tellement positive, qu'il a envahi notre façon de penser à un point que nous ne pourrions probablement plus penser en dehors de cette catégorie-là aujourd'hui. En 20 ans à peine, en une génération, ce mot qui était à peu près inexistant du discours public est devenu le mot numéro un du capitalisme. Nous pensons que des jeunes doivent faire des projets. Nous disons de certains jeunes, ils n'ont pas de projet. Et nous pensons que les vieux doivent faire des projets, les pauvres doivent faire des projets. Parfois, leur aide sociale est conditionnée à un projet. Nous pensons que les gens qui ont le plus de mal à se projeter dans l'avenir doivent faire des projets. Les seuls à qui on ne demande pas de projet sont les riches. Hein, vous avez peut-être remarqué. Nous pensons que nous devons avoir un projet de vie. Manifestement, vivre ne suffit plus. Il nous faut maintenant transformer notre vie en un processus productif permanent. Et il faut manifester notre désir de produire, hein, en ayant un projet de vie. Et donc, cette espèce de saleté, là, est un mot qui, sans que nous ne nous en rendions compte, transforme tout ce qui bouge en une marchandise, selon la définition marxiste de la marchandise, pour les trois qui restent dans la salle. Marchandise est un bien ou un service réalisé dans des conditions professionnelles qui teste sa pertinence sur un marché avec un bien ou un autre service équivalent. Et donc, mesdames et messieurs, quand il y a une vingtaine d'années, un éducateur travaillait avec des jeunes, il travaillait dans le moyen, voire le long terme, il travaillait sur 8 ans, sur 9 ans, sur 10 ans pour changer les mentalités. Aujourd'hui, il monte un projet avec des jeunes. Ce projet va durer un an. Ce projet a un début, mais surtout, il a une fin. Ce projet n'est pas fini, qu'on est déjà en train de préparer le projet suivant. Ce projet sera évalué positivement, même s'il a complètement raté. Nous n'avons plus le droit à l'échec, sans ce quoi nous n'avons pas la subvention. Quand on n'a plus le droit à l'échec, c'est le fascisme. Ce projet va entrer en concurrence avec tout un tas d'autres projets sur le marché de la subvention. Je pense que ce mot veut dire en réalité produit. Et que ce truc-là transforme ce qui jusqu'à maintenant n'était pas une marchandise, de l'amour, de la santé, de la culture, de l'éducation, transforme ça en marchandise. Et donc le fruit est mûr pour être cueilli par le privé. Mesdames et messieurs, il va falloir se débarrasser de ce truc-là. Mais ça ne va pas être facile.
Quand le calme devient une faiblesse, quand le fait de baisser, toujours baisser la tête, quand le peuple n'a plus de prophète et qu'il endure les manipulations de fait. Quand le calme devient une faiblesse, quand le fait de baisser, toujours baisser la tête, quand le peuple n'a plus de prophète et qu'il endure les manipulations de fait. Quand le calme devient une faiblesse, quand le calme devient une faiblesse, quand le calme devient une faiblesse. La tête quand le peuple n'a plus de prophète et qu'il endure les manipulations de fait. Toi mon père qui lutte et qui saigne pour voir ses fils un jour récolter ce qu'ils aiment. Le mensonge a noyé ses rêves, mais ce qui coule dans mes veines est la rage qui me lègue. Quand le calme devient une faiblesse, quand le calme devient une faiblesse, quand le calme devient une faiblesse.
Les efforts menés pour relancer la croissance seront annihilés.
Non, le truc qui est chaud là-dedans, c'est relancer la croissance.
Alors.
Si tu veux, François Hollande, son impératif, c'est de relancer la croissance. Pour faire baisser le chômage.
Moi, ça me paraît logique.
Bah alors, sauf si tu fais partie des 700 économistes qui ont signé la charte des économistes atterrés, où là, tu sais que, depuis 30 ans, un point de croissance supplémentaire se traduit par 1 million de chômeurs en plus, systématiquement. C'est-à-dire, toute augmentation de ce qu'ils, eux, appellent la croissance, c'est plus de chômage. D'accord ? Donc déjà, il y a un problème qui est un problème de culture économique bébête. C'est que le terme croissance est un foutu terme à la con. Nous, on appelle ça des faux amis. Tu vois, la croissance, ou on va donner 3-4 faux amis. La réforme.
Ouais.
Voilà, ça, c'est un faux ami, tu vois. C'est une réforme...
C'est sympa.
Bah, le problème, c'est que les Français ne veulent pas se réformer. Réforme. Tu vois. Bah, ils ont vachement raison. Putain, comment qu'ils ont raison? Tu vois, tu comprends? Réforme, c'est un faux ami. Croissance, c'est un faux ami. Démarche qualité, c'est un faux ami. En face de ça, tu as des faux ennemis. Les faux ennemis, c'est nos potes. C'est charge sociale.
Ah oui,
oh la vache.
Tu vois, fardeau.
Charge, fardeau. Oui. Tu vois, la charge. Alors là, tu te dis, ouais, tu demandes à une mémé, est-ce que vous êtes pour augmenter, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre 1 ou 2 0% sur la richesse des patrons pour payer la retraite? Elle va dire, ouais, ouais. Tu dis, est-ce que vous êtes d'accord pour augmenter les charges sociales qui pèsent sur les entreprises? Elle va dire, oh ben non, c'est embêtant quand même. Enfin, tu vois. La dette de l'État, c'est magique. La dette, c'est un pote. Vive la dette. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun État qui... Enfin, c'est génial. Est-ce que vous êtes pour augmenter, pour qu'il y ait plus de services publics? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut augmenter, alourdir la dette? Bah non.
Non.
Une dette...
C'est pas bien d'être endetté.
C'est pas bien. Donc, tu vois, relancer la croissance, qu'est-ce qu'ils appellent, eux, relancer la croissance? C'est simple, hein, il y a deux façons de relancer la croissance, il n'y en a pas 50. Soit, tu démolis la protection sociale, tu baisses le coût du travail en te disant, si je baisse le coût du travail, si les gens sont payés de la merde...
Ça va accroître la compétitivité.
Ça va accroître toute la théorie de etc. Voilà une façon de relancer la croissance qui ne marche pas, mais c'est pas grave. Ça fait...
Ça marche chez les Allemands.
Je sais pas. Je suis pas sûr.
Si, s'ils le disent dans le Figaro.
En tout cas, l'autre.
Je te jure, je l'ai vu, un tableau.
Non,
regarde.
Mais je veux dire, il ne faut pas relancer la croissance. Il ne faut pas relancer la croissance. Il faut arrêter avec ça, si tu veux.
D'accord.
Tu comprends, si tu veux relancer la croissance ou si tu veux relancer l'emploi, par exemple, on va prendre d'autres hypothèses. Tu interdis les délocalisations. Le mec, il délocalise une entreprise en Bulgarie, terminé, tu vois. Tu mets, je sais pas, 50 tôles ou une balle dans la nuque, t'envoies la facture de la douille à la famille, comme en Chine. Le mec, il arrête tout de suite de délocaliser, tu vois. Plus personne qui délocalise, terminé. Enfin, on va peut-être enlever ce passage. Tu comprends, je veux dire. Le mec, eux, là, Merkel et machin.
Je veux dire, Hollande, c'est notre nouveau président.
Il délocalise à donf. À donf. Et là, le type, il dit, ouais, il faut relancer la croissance. Mais ça va, quoi. Je veux dire, arrêtez, au secours. Ah, là, moi, je vais faire des poireaux en Bretagne. Là. Je peux plus. Je suis devenu trop lucide, ça fait trop mal.
Bon, d'accord, ouais. Donc là, j'ai eu un petit cours. Je viens, alors, attends, je regarde juste s'il y a...
Non, mais qui est capable de définir la croissance? Genre, on prend des gens dans la rue, on demande, c'est quoi la croissance? Dites-moi ce que c'est que la croissance. Je veux dire, tu vois...
C'est quand le PIB, il augmente.
D'accord, mais c'est quoi le PIB?
Ben, c'est... Merci. C'est quoi le produit intérieur brut? Comment tu le calcules?
La somme des richesses
produites
par...
Non, des valeurs, justement.
C'est pas des richesses.
Non, des valeurs. C'est-à-dire que c'est l'exemple que donne Patrick Vivray. Un accident de voiture, ça détruit de la richesse, ça bousille deux bagnoles, mais ça fabrique de la valeur, parce qu'il y a tellement de flux financiers qui vont être générés par ça en termes d'assurance, en termes de transport de pompiers, etc., que ça va augmenter le PIB. Donc c'est quoi la croissance? Tu comprends?
Ok.
Foin.
Les accidents de voiture.
D'où les objecteurs de croissance. Enfin, tu vois, d'où, bah, d'ailleurs, vous avez interviewé Pierre Rabhi.
Oui.
Ça doit lui plaire la croissance, lui. Hein.
Oui, je crois qu'il a, il a un petit souci avec ça aussi.
Une poupée qui pleure ou un Tamagotchi? Un pistolet laser, le même que sur Gulli. Jeux vidéo, Luigi et Mario. Tous ces cadeaux, j'en ai déjà bien trop. Le bar à lait, des dessins animés. Moins
Est-ce que tu verrais dans le milieu médiatique des mots qui ont été remplacés,
Des
mots négatifs, à part intervention pour la guerre, c'était quoi?
Les
frappes chirurgicales, les dommages collatéraux.
Dégâts collatéraux, c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, c'est très intéressant d'ailleurs. On s'aperçoit que la France est beaucoup plus avancée sur la dérive médiatique, la dérive du vocabulaire dans les médias. Nous, on fait des ateliers en Belgique et en Suisse, où ils parlent français, et où ils disent encore des choses qui nous choquent. Oh. Par exemple, à Genève, je prends la tribune de Genève, et les Américains venaient de larguer une bombe sur un truc de civil, je ne sais plus si c'était un HLM, un hôpital, une
en
école.
En Irak, en Afghanistan.
Ouais, je ne sais plus où. Ouais. Et donc... un dégât collatéral. Donc. Et donc, je lis dans la tribune de Genève « Carnage américain ». Et je me suis dit, je suis presque sûr que ça serait impossible de voir ça en première page de Libération. Un carnage américain. Peut-être je me trompe. On a un Belge qui me dit l'autre jour « Combien ça coûte pour vous faire venir ?» Tout ça. Alors je lui dis « Ben voilà, les conférences, c'est tant, ta-ta-ta. » C'est une association, culturel. Et il me dit, bon, écoutez, j'en parle à la puissance organisatrice, et ensuite je vous rappelle. Excuse-moi, comment t'as dit là? Le pouvoir organisateur. Le pouvoir. J'en parle au pouvoir organisateur et je vous rappelle. Mais je dis, mais nous on dit le partenaire. Tu te vois écrire dans un dossier de subvention à la mairie le pouvoir organisateur, ça veut dire que tu rendrais visible le fait que tu n'es qu'un exécutant d'une politique publique et que le maire te donne du fric et tu as juste le droit de fermer ta gueule et de faire, d'accord? C'est le pouvoir organisateur, c'est comme ça. Dire qu'on est des partenaires, ce qui est incroyablement faux, ça laisse entendre qu'on est sur une égalité de position, d'accord, qu'on travaille avec la mairie, mais enfin on est quand même, on fait ce qu'on veut, c'est tu vois. Tu comprends?
Ouais.
c'est vachement intéressant, l'intégration européenne.
Ouais.
Comment est-ce qu'on peut être contre ça? Enfin, je veux dire, l'intégration européenne, voilà, on a l'image. Je veux dire, c'est...
Intégration, c'est sympa déjà, ouais. C'est positif.
C'est mieux que la désintégration. En manque de peau, moi je suis pour la désintégration européenne, mais alors à fond les ballons. D'accord? Parce que précisément, c'est pas d'Europe dont on parle, c'est de l'Union européenne. Mmh. C'est l'Union européenne, c'est le contraire de l'Europe. Hein. Enfin, c'est une saloperie. Et donc, effectivement, parler d'intégration européenne, enfin, ça a été tout le gag du traité constitutionnel. Enfin, c'est construisons l'Europe. Oui, d'accord. Donc, détruisons l'Union européenne. Enfin, c'est l'Europe.
Et là, toi, t'aurais, si t'avais eu à faire le titre, t'aurais mis quoi?
Mais c'est une bonne question.
Merci de l'avoir posé.
Pour plus d'intégration européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les pays acceptent de plus détruire les protections qu'elles ont érigées pendant 50 ans au niveau national. Mmh. Alors, je suis désolé, mais la mondialisation, c'est vraiment, vraiment le piège à con. Il suffit d'être marxiste première année, d'accord, même année préparatoire, pour savoir que le capitalisme est massivement organisé sur une base nationale. Oui. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un capitalisme international, c'est un autre problème. Mais grosso modo, il est régulé dans des cadres nationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, eh ben, c'est l'histoire de 45, on leur a mis dans la gueule les conventions collectives, on a imposé le SMIC, on a dit qu'on ne pouvait pas licencier comme on voulait, enfin bref. D'accord. Ça, c'est un cadre de régulation dans des frontières nationales. L'intégration européenne, ça veut dire la désintégration de ces cadres de régulation du capitalisme. Donc quand elle dit qu'il faut plus d'intégration européenne, ça veut dire qu'il faut plus de désintégration de toutes nos protections nationales.
Il faut plus...
Alors si elle avait mis, si Le Figaro avait mis Merkel et Hollande pour plus de démolition de la protection sociale, tu vois, il y a des gens qui se seraient dit oh, « ben non, non, c'est con !» Non mais, elle l'a dit, elle n'arrête pas de le dire. Les salariés en France, la protection sociale est trop coûteuse aux entreprises, on est trop protégés, c'est pour ça qu'il y a du chômage. Toute la théorie du Conseil de l'Europe, c'est que s'il y a du chômage, c'est parce que les salariés sont trop protégés et que c'est trop difficile de les licencier. C'est toute la théorie de la flexi-sécurité. Si on peut virer les gens, c'est donc bon pour leur emploi. Donc voilà, donc si tu veux, l'intégration européenne... Si je suis monsieur tout le monde, que j'ai pas bac plus 12 et que j'ai pas tout Bourdieu dans ma bibliothèque, ben je suis pour. Surtout si deux chefs d'État, dont un qui me dit qu'il est de gauche, disent ouais quand même par rapport à la crise de la Grèce, il faudrait quand même plus d'intégration européenne. Donc je sais pas ce que c'est que la crise grecque. Je crois qu'il y a une crise alors qu'il n'y en a pas. Je dis ouais, faut déjà décoder hein, ce que c'est que la crise. Faut en lire des bouquins, tu vois. Et donc voilà, donc l'intégration européenne, c'est magique. Donc, je suis contre l'intégration européenne. Alors là, si je dis ça, et si j'ai peu de temps pour le dire, les antifaf vont me tomber dessus, et on va commencer à me soupçonner d'être un mec d'extrême droite.
Pourquoi?
Parce que l'extrême droite, Marine Le Pen, Villiers, etc., ils sont pour sortir de l'Europe. D'accord. Mais pas pour les mêmes raisons que moi. D'accord. J'en ai rien à foutre de la souveraineté, d'accord. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de ne pas aligner les protections des travailleurs français sur le Bulgare. Je préférais qu'on oblige la Bulgarie à s'aligner sur nous, d'accord? Bon, mais ça, c'est pas ce qu'ils vont faire, hein, parce que là, il faudra augmenter les charges sociales. Donc en fait, ça, c'est une démolition complète. Tu sais ce que ça veut dire, l'intégration européenne? Ça veut dire la fin du CDI.
Odaleta. Un jour, ils ont condamné Socrate, ces pseudo-juges athéniens, parce qu'il les a surpris en train de faire semblant de savoir, mais ils savaient rien. Odaleta, Au dos, plus grand voleur de tous les temps, de toute mémoire, auteur qui œuvre au plus grand mensonge de l'histoire, de nous faire croire qu'il représente le peuple, mais qui se taise, puisqu'il représente la tristesse, comme un bouquet sur un platane, et plus il gagne comme Zlatan, leur âme s'appauvrit de richesse. Je vous concède la vérité du procédé, plus on possède, plus on est possédé, et les politiques détruisent tout ce qui pourrait céder. L'État est utile, comme un trou dans la tête, il nous suicide depuis la tour de Babel, elle dit briller comme une émeraude, juste pour guider les âmes en haut. Elle essaie de faire oublier qu'elle n'est que le trône du roi Nemrod. On lance que des avions en papier contre leur tour de Babel. L'État s'appelle Cain, me dit que je suis son frère Abel. Cache un couteau dans son dos et me sourit d'un air cruel. Tant de scandales politico-financiers marquent mon siècle. Là où finit l'État, commence l'arc-en-ciel. C'est mon dégoût des demi-dieux qui fait que je les défie comme Ulysse. Car les égouts de la politique évitent les filtres de la justice. Et nique sa mère, le maire, le sénateur, vos cours magistraux de langage qui n'ont jamais ému de cœur, même en tripotant des filles cupides que le pouvoir en délirique, ventripotant moche et stupide. Bref, des politiciens classiques. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. Tu trouves que c'est un cartoon, que mes critiques sont des rancœurs? Peut-être bien car c'est un clown qui a dû créer les restos du cœur. Dis-moi quelle chaleur d'âme t'espère de son manteau de glace. Alors écrasons l'infâme, c'est la tirade de Ruy Blas. Si t'es honnête, t'es une marionnette au bout de leur ficelle. Alors coupons les tentacules de cette putain de mafia officielle. Et ensuite les testicules des dynasties politiciennes. Te rappelles comment tu me parlais mal, Paris brûle-t-il bientôt? Et on commencera par l'ENA, je suis là pour dégrader l'État. Qu'on voit sa garde prétorienne, il présente la première dame avec la grâce qu'on prête aux reines. Si on est masqué dans les manifs, c'est à cause des gaz lacrymogènes. Un mythe gros, les politicos sont des mythos. Guillotinez-les tous, place publique. Là où même Dany le Rouge est devenu Cone Bendit. Il est plus dangereux d'être lanceur d'alerte anticapitaliste qu'un prêtre pédophile, terroriste islamiste ou qu'un fraudeur ministre. Les injustices d'aujourd'hui feront les Mandela de demain, les Martin Luther King pour faire la violence en paix. Demandez-moi le chemin. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans l'hémicycle juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle.
Sur ces mots, ce que tu essayes d'expliquer dans la conférence, c'est que en gros, on a tout simplement remplacé, fait disparaître un certain nombre de mots pour les remplacer par d'autres, et que en faisant disparaître les mots, on a fait aussi disparaître les concepts et
ouais, c'est plus insidieux que ça. C'est plus insidieux que ça. On a remplacé des mots à consonance négative par des mots à consonance positive. C'est-à-dire que l'essentiel du vocabulaire est devenu positif. Il fallait plus dire un aveugle, il fallait dire
un non-voyant.
Ouais, ou disons un handicapé devenu une personne à mobilité réduite. Enfin, tu vois, il y a eu tout ce travail d'euphémisation, un licenciement collectif, tu vois, blam, c'est devenu un plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc, y avait un gars qui s'appelait George Orwell qui avait compris, quand il écrit en 1945 son roman, 1984, il comprend un truc génial. Il comprend que si tu veux transformer un pays en fasciste, c'est pas obligé de mettre des armées. Il suffit que tu changes le vocabulaire et qu'il n'y ait plus que du vocabulaire positif. Parce que si tu n'as plus que des mots positifs, tu ne peux plus énoncer de contradictions. Et donc, on n'est plus en démocratie. Tout le travail que faisaient les associations de contestation locale, de ce qui n'allait pas dans les politiques locales, à partir du moment où c'est devenu du développement local, t'es mort. T'es là pour faire du développement local, t'es pas là pour chier dans la colle et dire que je sais pas quoi, que le quartier est moche. D'ailleurs, les quartiers sont beaux. D'accord, toute la politique de la ville, c'est positivons les quartiers. Hein, y a beaucoup de belles énergies dans les quartiers. Oui, mais enfin, va y vivre alors. Il n'y a pas un seul élu qui habite ces putains de quartiers. Oui. Mais à part ça, ils sont tous à fond dans la politique de la ville. Quartier is beautiful. Donc...
Les repères sont tout éclatés, tu sais. Égaré sur tous les aspects purés. On n'était pas trop préparé du fait que le monde allait s'éloigner du vrai. On m'a dit de sortir de la caverne, frère, pour voir la vérité, la lumière claire. Le soleil et has-been, c'est plus le critère, remplacé par néon publicitaire. Aujourd'hui n'est pas un bon plan, faut dire. Capitalistes font pas semblant de rire. Faut courir vite, courir longtemps, horrible. Prendre des risques sans prendre de temps aussi. Le profit nous a observés, c'est vrai. Le chemin peut pas proposer le respect. Posséder mais déposséder des clés. C'est quoi ce projet de société biaisé? C'est une impasse, c'est un trou noir donc. C'est un cul-de-sac qui mènera nulle part. Un piège caché dans un couloir sombre, un pays en face de son pouvoir. Un pouvoir qui porte pas le pays, non. Un pouvoir qui affiche mépris blanc. Un pouvoir froid qui balbutie tant. Un pouvoir froid qui tartufie grand. La bienveillance elle n'est pas sur la liste. Y'a aucune chance de faire pousser la vie. On est mangé par du capitaliste. Alors on meurt sur du capitalisme. Tourner en rond comme dans un tonneau vide. Prendre du recul ce n'est pas trop possible. Le regard froid, je ne suis qu'un prototype. Je me réchauffe grâce à mes gros sourcils. J'aime bien l'oseille mais c'est pas réciproque. Tu veux tout contrôler comme un cyborg. Tu veux écrire ta vie comme un sitcom. On connaît tous ton dernier épisode. Beaucoup de gens font rien parce qu'ils ont peur. Au lieu de faire pour toucher l'équilibre, j'aimerais transformer le malheur en fleur. Pour voir qui ferme le poing sur les épines. Tout ce qui est bon dans cette vie se fait descendre. Mais on ne fera pas du feu avec des cendres. Ils ont cassé humanité et gens. De l'Afrique à la cordillère des Andes. La bienveillance elle n'est pas sur la liste. Y'a aucune chance de faire pousser la vie. On est mangé par du capitaliste. Alors on meurt sur du capitalisme. Quand je parle politique personne me tolère. Deviens agressif et personne n'arrête. Pourtant je suis pas un ouf, je suis en colère. Pourtant vous êtes des oufs de ne pas l'être. Ce monde nous vend le dépassement de soi. Pas pour le sport mais pour un poste en stage. Comme ça tu t'exploiteras toi-même par toi. Pas pour l'oseille mais pour pas être en marge. Ça se voit que vous avez pas eu les refs. Le salut viendra pas du MEDEF. Les actionnaires se prennent pour des elfes. Encouragés parce que l'État les aide. La bienveillance elle est pas sur la liste. Y'a aucune chance de faire pousser la vie. On est mangé par du capitaliste. Alors on meurt sur du capitalisme.
Alors le fédéralisme, c'est aussi un, en ce moment là. Ça fait 2-3 jours qu'on parle d'un saut fédéral.
Oui, mais c'est pour le pire, c'est pas pour le meilleur. C'est-à-dire que ce qui est très très effrayant dans l'idée qu'ils vont peut-être arriver à construire un organe politique commun, c'est que c'est vraiment pour démolir les tu vois.
C'est pareil qu'intégration.
Bah ouais.
D'accord.
Donc si tu veux voir, alors là, tu vois. Enfin, là, je rejoins Étienne Chouin, je dis non, il faut sortir de l'Europe, hein, vite, quoi, si tu veux, il n'y a pas... Non, mais tu comprends, à partir du moment où les gens qui sont supposés nous représenter à gauche, en l'occurrence François Hollande, les socialistes, font une politique de droite, moi, je ne sais plus faire, enfin, tu vois, je veux dire...
C'est... Alors, voilà, est-ce qu'il y a une différence entre la nouvelle langue utilisée par la droite et la nouvelle langue utilisée par la gauche?
Non, je pense que c'est la même, parce que il n'y a pas de gauche, c'est la droite. Donc tu veux dire par la droite et par la droite.
Par le Parti Socialiste.
Non, c'est la même.
C'est la même.
C'est la même, c'est la nouvelle langue de ce qu'on appelle la contre-révolution néolibérale. Enfin, c'est celle de l'OCDE. C'est cette idée que le capitalisme, c'est une bonne chose. Enfin, tu vois, il suffit de le réguler un peu, et etc. C'est l'idée de l'ouverture. Par exemple, la privatisation. Enfin, je sais pas comment vous dire. Le marché éducatif, enfin, ils vont tout transformer en marché, tout, ils vont tout privatiser. Les socialistes, c'est Dominique Strauss-Kahn qui allait privatiser l'éducation nationale. Lui, c'est le privatiseur international, puisqu'il était au FMI. Le FMI, c'est l'instance qui privatise des politiques publiques. D'accord. Ce mec-là, on me dit qu'il est socialiste. Il allait faire ça en France. Bon, c'est pas lui qui le fera. Je vous rappelle que les Américains nous ont sauvés 3 fois dans notre histoire, en 14, en 39 et en 2011 au Sofitel. Et donc, ça sera un autre qui le fera.
Mais il y a quand même une différence dans l'affichage, au moins, dans comment on présente les mesures. Par exemple, Manuel Valls, sur l'immigration.
Il donne 20 euros pour le SMIC, ouais, ça fait pas plus.
Alors, moi, pour parler immigration, parce que c'est un autre, une thématique qui est censée différencier la droite et la gauche.
Je te vois venir, donc je vais te le dire. La différence, la différence entre la droite et la droite libérale et la droite sociale, disons ça comme ça, elle joue à la marge sur les mœurs, sur des aspects qui sont tout à fait pas négligeables, comme la suppression de la peine de mort, comme l'autorisation du mariage homosexuel, comme une plus grande souplesse dans l'accueil des immigrés. Enfin, tu vois, tout ça, ça fait une différence. C'est-à-dire que c'est exactement comme le management participatif, c'est-à-dire qu'ils sont plus efficaces en étant moins répressifs. Mm. C'est une droite qui a compris, alors que l'autre, ils sont très ouvertement répressifs. Mais enfin, honnêtement, ça fait depuis 1981, ça fait combien, 40 ans 81. Oui, ça fait 33 ans qu'ils nous jouent le scénario. Un coup la droite qui est méchante, un coup la gauche qui arrive derrière, qui fait passer les trucs de la droite, et puis ensuite la droite revient, elle en met un gros coup, puis la droite fait passer. Franchement, là, c'est juste énorme, quoi. Parce que Hollande est en train de nous le rejouer, mais c'est tellement visible. C'est spectaculaire, enfin, je veux dire.
Là, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est l'affichage d'objectifs. Alors là où les anciens ministres de l'Intérieur sous Sarkozy affichaient des objectifs de reconduite à la frontière, d'expulsion.
Les procédures Valls, d'éloignement.
Oui. Valls nous parle d'objectifs de régularisation. C'est-à-dire, les méchants avant disaient on va en expulser 30 000 par an. Oui. Lui, il dit on va en régulariser 30 000 par
an. Tout à fait. Non, alors que les autres. Ils ont dit qu'ils allaient régulariser exactement le même nombre.
Le même nombre. D'accord. Mais les autres ne parlaient pas nombre de.
C'est un très bon exemple.
Du gens qui régularisaient. Ils ne parlaient que du nombre de
c'est
gens.
Génial.
Qui...
C'est génial.
Il y a plus, j'ai bien fait l'exercice.
C'est superbe. C'est superbe. Il n'y a plus d'échecs scolaires en France. C'est interdit d'utiliser l'expression à l'éducation nationale.
On parle
de réussite différée.
C'est ça, maman. Tu vois,
train de lire le journal, train de boire notre misère, en train de me dire ça va mal, en train de mettre à penser, en train de pas y croire, en train de me l'avouer, pendant que les autres veulent pas le voir. Mène bas en centre-ville, plus personne fait des sourires. L'empreinte du capitalisme a commencé à agir. A commencé à agir. Chercher quelque chose d'autre, en train d'être blasé, en train de sortir de chez nous, en train d'aller travailler, en train de checker de la pub, en train de me faire brainwasher, en train de faire rouler le système pour me faire mieux rouler. Mène bas en centre-ville, plus personne se fait des sourires. L'empreinte du capitalisme a commencé à agir.
À ça, résister à du langage qui est extraordinairement positif pour masquer des saletés, pour masquer une violence, c'est très difficile. De la façon dont du langage nous empêche de réagir et de penser, sur les retraites actuellement, sur les attaques contre le régime général de sécurité sociale, comment est-ce qu'on attaque un régime général en prétendant mettre à la place un régime universel? Le mot universel est absolument magique du point de vue de nos adversaires. Parce que comment est-ce que vous voulez être contre un système universel? C'est impossible. C'est impossible de penser une opposition à un mot tel que universel. Le mot universel est un mot qui est un mot généreux, sain, noble, positif, etc. Donc un régime universel, on ne va pas être contre. Or, ce qu'ils appellent un régime universel, ce qui était le régime universel, c'était bien ce qu'avait mis en place Croizat en 45. Là, on avait un régime universel. C'est-à-dire qu'on avait arrêté tous les petits régimes de sécurité sociale où certaines entreprises, elles payaient 2%, d'autres payaient 12%, d'autres payaient 7%. Bref, c'était un gros n'importe quoi. On dit terminé, tout le monde payera pareil, on appelle ça un régime général. En réalité, c'était un régime universel. Et à ce moment-là, on va améliorer le système des retraites en faisant partir des gens plus tôt. Et la bagarre, c'est de faire partir tout le monde plus tôt. C'est-à-dire, au début, c'est 65, après c'est 60. La CGT, à un moment, se bat pour 55 ans, et puis on va continuer. Et on arrive à l'obtenir pour certains, on arrive à l'obtenir pour la fonction publique, et il faut aligner le privé sur la fonction publique, etc. Bon, donc on est sur un système où on va améliorer le système pour tout le monde. Et là, Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est quand même pas normal qu'il y en ait, des retraites qui soient meilleures que les autres, qui partent plus tôt. Non, non, c'est pas juste. Donc, on va mettre en place un système de justice sociale et on va re-raboter tout le monde. On va enlever tous les acquis, comme ça, ça sera juste. Donc, pourquoi je parle de ça? Vous voyez bien comment, avec des mots comme universel, justice sociale, équilibre, l'âge d'équilibre, c'est extraordinaire. Dire, parce que s'il y a un problème financier, à supposer qu'il y en ait un, mais il n'y en a pas, d'accord, la façon de rétablir l'équilibre depuis le début de la Sécu, c'est d'augmenter les recettes, c'est-à-dire d'aligner les cotisations des entreprises sur les besoins de la Sécu. Là, on est à l'équilibre. Évidemment, si vous transférez la question de l'équilibre non plus sur les cotisations des entreprises, mais sur, soi-disant, l'âge des gens, on se met à parler d'âge d'équilibre. Mais si vous n'avez pas réfléchi au problème, si vous êtes monsieur tout le monde qui est complètement intoxiqué par les médias, par France Intox, par TF1, bah, l'âge d'équilibre, bah, ça a l'air plutôt bien. Enfin, si c'est bien l'équilibre, bon, bah, y a un âge d'équilibre pour un système universel, et puis c'est de la justice sociale, etc. etc. Et ben, ce que j'essaie de dire, c'est que résister à ça, résister à du langage qui est extraordinairement positif pour masquer des saletés, pour masquer une violence, c'est très difficile. C'est très difficile si on ne fait pas en face le même travail. Si on ne se bat pas sur du langage, alors on se bat avec les armes de l'ennemi.
Ment énormément, le physiquement, le mentalement, le vulgairement,
et le poliment, le béatement, et le tristement, et le sagement,
et l'idiotement,
oui l'idiotement, et le sensément, et logiquement,
et le carrément, la cruellement, et l'abonnement, y'a que ma maman.
Qui ment rarement.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Le sauvagement, le paisiblement, le socialement,
et l'isolément, l'unanimement, et l'appartement, si les éléments,
l'illégalement,
l'illégalement, le pénalement, oui le châtiment,
immédiatement, et le jugement, et l'amendement, et le garnement.
Ment certainement.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Tout le monde ment.
Tout le monde ment.
Le gouvernement
ment énormément.
Le docilement, l'affranchissement, le laïquement,
le dévotement, l'éternellement, et le diablement, oui assurément.
Cet enfermement,
c'est l'enfermement, le réellement, la troisièmement,
la deuxièmement, sur l'événement, la premièrement, c'est du boniment.
Continuellement,
tout le monde ment,
tout le monde ment,
le gouvernement
ment énormément,
tout le monde ment,
tout le monde ment, le gouvernement
ment énormément. Si la vache ment, alors le piment, et si le piment,
alors le léman, bien sûr la jument, et le caïman, dans l'eau le sarment,
le chevènement,
le chevènement, et l'allègrement, et la droitement, et l'extrêmement.